Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, troisième jour de forte chaleur et le quotidien de beaucoup de Français est réellement affecté désormais. Près de 5 millions de voitures interdites à Paris et en proche banlieue. Ce sera le cas aussi demain. La circulation alternée est en place. Circulation alternée aussi à Lyon. Demain, ce sera à Strasbourg encore. Des centaines d'écoles, par ailleurs, seront fermées à partir de ce jeudi. Et les températures continuent de grimper. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
On attend 41 degrés à Limoges cet après-midi. C'est dans ce coin qu'on devrait battre des records aujourd'hui. Pour le dire très vite, à part le long des côtes, alerte orange partout et des températures bien grillées.
Oui, effectivement, on attend 35 à 40 degrés sur la majeure partie du pays, avec localement plus de 40 degrés, comme vous l'avez dit, du côté de Clermont-Ferrand, mais aussi de Limoges. Prévoyez 30 à 34 degrés en allant vers le nord-ouest, avec même un peu moins de 30 degrés entre le Finistère et le Pas-de-Calais. Côté ciel, c'est surtout le soleil qui vous attend aujourd'hui, avec juste quelques nuages entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Et puis on rappelle, 65 départements en vigilance orange.
De plus en plus de scientifiques font un lien direct entre dérèglement climatique et épisodes météo extrêmes. Le gouvernement est accusé de ne pas en faire assez pour lutter contre le changement climatique. Emmanuel Macron verdit au moins ses mots avant le sommet international du G20 au Japon. Il prévient, la France ne signera pas le communiqué final si...
Si on ne parle pas de l'accord de Paris, et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est plus capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France.
Dans l'actualité encore, la radicalisation n'est pas un problème majeur dans les services publics. L'État a pris la mesure du phénomène, mais il reste des points problématiques. Les prisons, certains tarmacs d'aéroports, certaines salles de sport. C'est la synthèse plutôt rassurante d'un rapport parlementaire publié aujourd'hui. On en parle avec son auteur, le député Éric Diard, qui est notre invité. Quand l'instance Vérité et Dignité en Tunisie demande des excuses à la France pour l'attitude de son armée après l'indépendance, c'était une information France Inter ce matin, on la soumet à un historien. Il devait être vendu aux enchères en public demain. Il a été vendu discrètement à un privé hier. Qui a acquis le tableau de Toulouse attribué au Caravage? Nous essaierons de lever le mystère. Johan Richomme remporte la solitaire du Figaro. Nous irons à Dieppe retrouver Jérôme Val. Et puis au cinéma cette semaine, Toy Story 4 et un frigo qui parle. Le 13h. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
La France ne lutte pas assez résolument contre le changement climatique. Le premier rapport du Haut Conseil pour le climat est sévère pour le gouvernement. Cet organisme indépendant créé au moment de la crise des Gilets jaunes pointe en particulier les secteurs des transports et du logement. Il représente la moitié des émissions de gaz à effet de serre à E2. Dans le bâtiment, on investit des milliards dans la rénovation thermique, mais on ne contrôle pas assez l'efficacité des travaux. Lutter contre les passoires thermiques, c'est aussi en débat en ce moment à l'Assemblée. Cela vaut pour les longues et froides journées d'hiver, mais aussi pour les chaudes journées de canicule. Direction Bourgoin-Jallieu, en Isère, il fera 36 degrés cet après-midi et dans les logements collectifs mal isolés, on cuit encore plus qu'ailleurs. Reportage Damien Triomphe au pied de la tour de Chambaret.
Ils savent très bien, les habitants des immeubles de Champaret, pourquoi ils ont si chaud.
Très très mal isolés. Encore depuis le changement des fenêtres, ça va un petit peu mieux, mais franchement...
On a très chaud.
Même en fermant les volets la journée et en ouvrant la nuit.
De jour et de nuit, j'ai 26 degrés dans l'appartement. Les murs ne sont pas très épais. Hein.
Concernant cette dame, il y a des problèmes de murs, de menuiserie et pas que.
Là, effectivement, elle est sur une façade plein sud et je crois que où elle a encore des persiennes métalliques qui n'arrangent pas la situation.
André Bélier, c'est le directeur de l'OPAC 38. Il le dit, ça ne fait pas longtemps, c'est vrai, que les bailleurs sociaux prennent en compte les phénomènes de forte chaleur pour penser les constructions. La chance, en quelque sorte, c'est que ça fait plus longtemps qu'ils font attention aux problèmes de chauffage et de perte d'énergie. Alors du coup, ça va dans le bon sens.
C'est-à-dire qu'un vitrage moderne, aujourd'hui, il isole du chaud vers l'extérieur et de l'été, du chaud vers l'intérieur. Et des fois aussi, on a des terrasses qui ne sont pas très très bien isolées. Alors si vous le voyez, ces terrasses ont toutes été refaites. On a un isolant de 20 cm thermique qui fait que la chaleur tape énormément sur la toiture terrasse. Et du coup, cette année, eh bien, ils auront un vrai confort d'été parce qu'ils sont isolés par le dessus.
Mais
les façades ne sont pas encore prévues. C'est une programmation, plan stratégique de patrimoine 2023-25.
Encore 40% des immeubles de l'OPAC dans l'agglo bergalienne sont en dessous du niveau si on parle performance énergétique.
Alors comment limiter le nombre de passoires thermiques? La mesure examinée à l'Assemblée consisterait à ne pas verser aux propriétaires une partie de la somme lors de la vente d'un logement particulièrement passoire. L'argent serait utilisé pour faire des travaux. En tout cas, que ce soit l'opposition à l'Assemblée, alors qu'on discute de ce projet de loi énergie, ou le Haut Conseil pour le climat, climat. Les deux font le même constat. Le gouvernement n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Afficher la volonté d'une France neutre en carbone en 2050, c'est bien. Mais encore faut-il s'en donner vraiment les moyens. Faut-il voir une réponse à ces attaques au Japon, où il vient d'arriver avant le sommet international du G20. La première déclaration publique d'Emmanuel Macron, c'est pour le climat. Vous savez que lors de ces sommets internationaux, un moment clé, c'est quand les participants se réunissent pour rédiger le communiqué final.
J'ai entendu beaucoup dire « j'ai des lignes rouges ». Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne veulent plus signer les communiqués en G7 ou en G20 parce qu'il y a des lignes rouges. Moi, j'en ai une. Si on ne parle pas de l'accord de Paris, et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est plus capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France. C'est simple. Ce sera sans la France parce qu'on ne peut pas chez nous être sous la pression de notre jeunesse à juste titre, faire de plus en plus sur ce sujet, dire on a des débats très importants au niveau européen, et quand on se retrouve à 20, dire « excusez-nous de vous demander pardon ». Nous avons vu que ça vous chagrinait qu'on ait les accords de Paris, que la communauté internationale, à l'exception de quelques-uns, soit engagée. Non. Si l'un ou l'autre ne veulent pas signer, qu'ils se désignent eux-mêmes. Mais nous ne devons pas collectivement perdre de notre ambition ensemble.
Propos recueillis par Dominique André pour France Inter. La deuxième partie du quinquennat sera plus verte, promet le président. Le coup de chaud actuellement en France permet d'appliquer vite et de manière assez drastique une mesure de lutte contre la pollution, pollution à l'ozone. À cause de la chaleur notamment, le seuil d'information est dépassé aujourd'hui en Ile-de-France. D'ordinaire, on attend au moins 2 jours de suite pour mettre en place la circulation différenciée. Eh bien, elle est mise en place dès aujourd'hui. Seuls les véhicules avec des vignettes critères 0, 1 ou 2 peuvent circuler à Paris en petite couronne. Cela veut dire que près de 5 millions de véhicules sont interdits, 60% du parc francilien, c'est important. Si vous roulez quand même, risque d'amende 68 euros en voiture, 135 en poids lourd. Il y a des contrôles, notamment porte d'Italie à l'est de Paris, et bonne ou mauvaise foi, des automobilistes qui se font prendre, Thomas Séchier.
Oui, malgré les alertes, les articles, les messages sur les panneaux d'information de la ville de Paris, ils sont nombreux à ignorer l'interdiction.
La zone de circulation, elle est restreinte aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une vignette critère 1
et 2
qui ont le droit de circuler.
Ah, j'étais pas au courant, pardon.
Alexandre se rend de Paris à Vélizy pour le travail avec son vieux diesel, critère 4, interdit.
Ouais, c'est pour la pollution, pour limiter les masses de pollution sur Paris. Mais c'est normal après, mais j'étais pas au courant par contre. D'accord. Vu que je suis rentré tard hier soir, j'ai pas vu les infos.
Il repart avec une amende de 68 euros, 135 pour les poids lourds. D'autres ont plus de chance.
Vous voyez, c'est une vignette 4, c'est une vignette de stationnement.
Oui, de stationnement. Ouais, oui. Mais si vous aviez la vignette en bon et due forme, je vous aurais pas arrêté là.
Oui, bien sûr.
D'accord ? Donc je ne vais pas vous verbaliser, mais faites le nécessaire au plus vite. D'accord, monsieur ?
Bref, c'est du cas par cas, reconnaît Ingrid Perratou, commissaire divisionnaire.
C'est la difficulté d'établir leur bonne foi, étant donné que souvent les automobilistes se retranchent derrière le fait qu'ils n'avaient pas écouté les informations, qu'ils n'étaient pas au courant. Pour certaines situations, la pédagogie ne suffit plus. Il convient aussi de verbaliser.
Et à la place d'Italie, les contrôles se poursuivent toute la journée.
Et cette circulation différenciée sera reconduite demain, pas vraiment respectée. En effet, le PC Mobilité de Radio France a constaté ce matin des ralentissements très importants, alors qu'il y a en principe des dizaines de milliers de voitures en moins. Circulation différenciée aussi en place à Lyon et Villeurbanne aujourd'hui et demain à Strasbourg. Demain, cela dit, la conséquence la plus notable, autre conséquence notable plus précisément dans notre vie quotidienne de ce long épisode de chaleur, ce sera la fermeture de centaines d'écoles demain et vendredi. On sait que ce sera le cas à Sarreguemines, par exemple en Moselle, en partie à Tours, dans une partie de l'Essonne et du Val-de-Marne. École fermée aussi demain et vendredi l'après-midi à Chalette-sur-Loing, dans le Loiret. Le maire s'appelle Franck de Maumont.
On a des classes où on va dépasser les 30 degrés. Et voilà, pour les conditions de travail, nous semblent pas excellentes pour les enfants. Puis ça va continuer à monter. On fait tout ce qu'on peut pour faire baisser la température, mais bon, même en aérant, ce n'est pas suffisant. Alors, dans nos nouvelles écoles que l'on construit, on a prévu des systèmes de rafraîchissement avec des planchers chauffants rafraîchissants. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas dans toutes les écoles, donc on peut pas fermer qu'une partie des écoles. Donc, les enfants seront accueillis le matin de 8h30 à 11h30. Il y aura une restauration de 11h30 à 12h30, et donc les parents devront récupérer les enfants à 12h30.
Un propos recueilli par nos collègues de France Bleu. Or, Orléans, dans certaines communes, les centres de loisirs seront ouverts. Dans d'autres communes, il n'y aura pas de leçons dans les écoles, mais les portes seront ouvertes. Dans le cadre de cet épisode de canicule, la très très mauvaise idée du jour, c'est celle d'une maman qui a laissé son bébé dans la voiture sur le parking d'un supermarché à Belleux, près de Soissons, dans l'Aisne. Le bébé est resté comme ça 20 minutes. La maman a passé quelques heures en garde à vue et sera convoquée par la justice en décembre. Sur franceinter.fr, comment traverser Paris au frais? Voilà une série d'idées qu'on vous propose, la carte des îlots et couloirs de fraîcheur. Et puis pour boucler ce dossier, petite anecdote que me racontait Sébastien Léas, les ingénieurs Météo France ont bondi ce matin en relevant une température de 35 degrés dès le lever du jour à Nice. Vérification faite, un étourdi avait déposé un vêtement sur le capteur de Météo France.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Un fou furieux qui prendrait le contrôle d'un métro ou d'un TGV ou qui réussirait à s'infiltrer dans la police. Ce genre de pensée cauchemardesque vous a peut-être déjà traversé l'esprit depuis l'année 2015 et la série d'attentats qui ont visé la France. Y a-t-il une menace de radicalisation dans les services publics? Deux députés publient un rapport sur ce thème et l'un des deux est notre invité. Bonjour Éric Diard.
Bonjour.
Élu LR des Bouches-du-Rhône. Un mot de définition d'abord. Radicalisation, Éric Diard, de quoi parle-t-on?
Alors, c'est important de distinguer, quand on parle de radicalisation, on parle d'une radicalisation religieuse ou violente, qui n'a rien à voir avec, d'une part, j'allais dire, tout ce qui concerne les atteintes à la laïcité, ce n'est pas de la radicalisation, le communautarisme ou le prosélytisme, qui n'a rien à voir quand même dans nos services publics, parce que nos valeurs, ce sont la laïcité en République française. Mais ce n'est pas de la radicalisation, donc la radicalisation, c'est de la radicalisation religieuse ou de la radicalisation violente, c'est-à-dire nous sommes dans du fondamentalisme et il y a des probabilités parfois de passer à l'acte.
Voilà, ce sont des gens qui, au nom de certaines idées ou croyances, sont prêts à passer à l'acte contre l'État,
contre l'État, contre tout ce qu'il représente.
Est-ce que je me trompe si je dis que votre rapport est plutôt rassurant, globalement?
Moi, je dirais plutôt qu'il est plutôt rassurant dans certains services publics, plutôt alarmant dans d'autres.
Rassurant où? Commençons par là.
Rassurant, alors on n'est jamais complètement rassuré, mais comme vous l'avez évoqué, les attentats de 2015 ont été une véritable prise de conscience dans les différents services publics français. S'il y avait une politique de l'autruche ou une volonté de mettre parfois, excusez-moi l'expression, la poussière sous le tapis, on a dit... Il y a des choses qu'on peut pas laisser faire. Donc, les services régaliens, la police, la gendarmerie, l'armée ont adapté leur riposte. Et donc, il y a un criblage qui se fait, il y a une surveillance, il y a un rétro-criblage, c'est-à-dire qu'on va ficher, on va empêcher ce type de personnes de rentrer dans ces différents corps de souveraineté. Donc là-dessus, il y a une adaptation. Mais c'était plus simple parce que dans ces services, il y a quand même une remontée des renseignements, une certaine hiérarchie, c'est beaucoup plus simple. Ça a été aussi simplifié dans les transports publics parce qu'il y a eu une loi de 2016 qui a permis le criblage des fonctions sensibles dans la conduite des transports de passagers ou dans le contrôle. C'est très bien, mais je souligne quand même que dans le transport public... Il y a la radicalisation, cela a permis de surveiller ou d'éliminer la radicalisation, en grande partie, mais par contre, il y a toujours des problèmes de communautarisme. Enfin, par contre, la problématique de la radicalisation est problématique particulièrement dans les prisons. Ça, c'est historique, ça date de 1995, avec l'arrivée de 450 prisonniers du GIA dans les prisons parisiennes. Donc, les prisons où malheureusement, on n'a pas encore fait un travail d'évaluation de la radicalisation des détenus de droit commun. Le problème, ce sont les détenus de droit commun qui se sont radicalisés en prison et qui continuent à propager. Nemouche, Koulibaly, Mera, Chekat étaient tous des détenus de droit commun qui se sont radicalisés en prison. Et donc cette propagation, il faut arriver à la juguler.
Des prisons qui plus est surpeuplées. On lit dans votre rapport que, alors c'est quelques dizaines, mais tout de même, quelques dizaines de personnes accréditées dans des zones sensibles à Roissy ou Orly sont suivies pour radicalisation. Ça, du coup, ça fait froid dans le dos.
Alors, il faut savoir que sur l'aéroport de Paris, c'est 80 000 badges rouges. Et donc, sur 80 000 badges rouges, il y a à peu près 80 personnes qui sont suivies au niveau de Roissy et 25 au niveau d'Orly. Alors, ça fait un suivi particulier. Alors, attention, sur ces secteurs-là, quand on fait un suivi régulier de ces personnes, c'est pas simplement qu'elles veulent passer à l'acte, c'est peut-être parce que elles ne serrent plus la main aux femmes, parce qu'ils font une pratique de plus en plus rigoriste de la religion, ou parce qu'ils ont quelqu'un dans leur entourage qui éveille l'attention du renseignement territorial. Donc, ce ne sont pas tous des potentiels terroristes, mais il est très important d'agir pour quand même surveiller, parce que la radicalisation, ce n'est pas un délit. En France, il y a la liberté de conscience et religieuse, c'est constitutionnel, et se radicaliser, c'est-à-dire ne plus serrer la main aux femmes, par contre, faire l'apologie du terrorisme, dire le djihad, c'est très bien, là, vous passez dans une autre dimension.
Les salles de sport ?
Je dirais pas les salles de sport. Il y a les salles de sport, mais je dirais des disciplines sportives. Vous avez une problématique qui n'est pas de radicalisation, de communautaristes. Dans le football, il y a le développement de clubs communautaristes. Dans le futsal, le développement de clubs communautaristes. Par contre, dans certaines disciplines liées au combat, il y a des personnes radicalisées qui ont infiltré ces fédérations. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant.
Puisqu'on parle de sport, une poignée de furieux qui s'imposent pour une baignade en burkini il y a quelques jours à Grenoble. Ça vaut même pas le coup d'en parler, c'est faire de la publicité superflue ou c'est le symptôme de quelque chose, Éric Diard ?
Non, c'est le symptôme de quelque chose. C'est d'ailleurs une deuxième opération qui se répète. Moi, on parle d'un acte de désobéissance civile. Moi, je dirais que c'est un acte d'obéissance religieuse. Donc, c'est une action qui est contrôlée, alors que, évidemment, se baigner en burkini dans une piscine municipale, ça contrevient aux règles de la laïcité, aux règles de l'hygiène et aux règles de la sécurité. Moi, si j'ai un maillot de surf, on va pas m'accepter dans une piscine municipale.
Merci Éric Diard d'être venu dans les studios de France Inter répondre à nos questions. La synthèse de votre rapport, on la trouve également sur franceinter.fr. Comment lutter contre les fake news, les infox? Parmi les instruments en cours d'élaboration, il y a un conseil de déontologie journalistique, un conseil que les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs pourraient saisir comme un médiateur et qui pourrait rendre public certains avis. Mais le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, veut aller plus loin. Il plaide pour un conseil de l'ordre des journalistes qui aurait un pouvoir de sanction jusqu'à retirer des agréments à des médias. Je vous propose d'écouter la réaction de l'historien spécialiste de la presse Patrick Evenot. Il préside l'Observatoire de la déontologie de l'information. Il travaille depuis des mois à la constitution de ce conseil de déontologie journalistique. Alors, un pouvoir de sanction. Certes, le secrétaire d'État pense à des médias comme Russia Today, plus proche de la propagande que de l'information, mais un pouvoir de sanction, c'est tout de même une très mauvaise idée.
Cédrico, je ne sais pas si c'est de l'incompétence, de l'inconscience ou de la provocation, mais il parle d'un conseil qui aurait des capacités de sanction qui sont absolument inadmissibles. Le ministre de la Culture est beaucoup plus mesuré et ne parle certainement pas de conseil de l'ordre. C'est une imbécilité. L'information, c'est quelque chose de trop important dans une société démocratique pour être laissé comme ça à des arbitraires qui veulent la censure. Ça n'est pas du tout ce que veut faire le groupe qui s'occupe de faire un conseil de déontologie journalistique. Nous, ce qu'on veut, c'est que le public puisse saisir un conseil pour qu'on lui dise s'il y a eu des dérives, s'il y a eu des problèmes. Mais c'est dans un dialogue et c'est surtout pas dans un système d'interdiction et de censure. Si on considère que le pape est maltraité dans Charlie Hebdo ou au contraire qu'il est trop bien traité dans La Croix, c'est pas un problème. C'est une ligne éditoriale et de même qu'un choix éditorial doit rester complètement libre parce qu'on est dans une société démocratique où le droit à l'information prime avant tout.
Un propos recueilli par Alexandra Akoun, la politique et la préparation des municipales, reportage de France Inter ce matin à Lyon. Les opposants au maire Gérard Collomb laissent entendre qu'il préparerait la place pour son épouse. Réponse de Caroline Collomb, elle assure à France Inter qu'elle n'est candidate à rien dans la région. Retour sur cette information que nous vous donnions ce matin. Vous savez peut-être qu'en Tunisie existe une instance Vérité et Dignité qui doit faire la lumière sur les crimes d'État commis sous les régimes des présidents Bourguiba puis Ben Ali. Et bien voilà que cette instance demande des excuses et des réparations, des dommages et intérêts à la France pour ce qu'elle considère comme des crimes commis par l'armée française après l'indépendance de la Tunisie, notamment en 61 sur la base de Bizerte, restée aux mains des Français. Affrontement militaire entre Français et Tunisiens, beaucoup plus de morts côté tunisien. Quel sens donner à ces demandes d'excuses et de réparations près de 60 ans après? Question posée par Bertrand Galichet à l'historien spécialiste du Maghreb Pierre Vermeren.
On est en pleine guerre d'Algérie, la Tunisie est indépendante depuis 5 ans et la France occupe la base aéronavale de Bizerte qu'elle doit quitter en 1963. Et Bourguiba réalise que l'Algérie donc va être indépendante et il décide de provoquer une crise pour la récupération de Bizerte avec un objectif secondaire qui est de négocier tant qu'il est temps la frontière entre la Tunisie et l'Algérie avec la France parce qu'il sait que ce sera très difficile avec le FLN. Il organise une crise en envoyant des civils marcher vers cette base de Bizerte et cela tourne évidemment à une répression sanglante, à des tirs.
Que dit de la situation politique actuelle en Tunisie cette demande de réparation adressée à l'ancienne puissance coloniale française?
Écoutez, la situation va très mal en Tunisie. Les élections générales législatives puis présidentielles doivent se dérouler en septembre et surtout une situation économique tout à fait désastreuse. Ce type d'opération, c'est davantage une communication politique pour détourner l'attention, même si la population aujourd'hui, évidemment, est très très éloignée de ses préoccupations d'il y a 70 ans de l'époque coloniale.
L'actualité internationale, c'est encore bientôt peut-être un monde où les États-Unis seront dirigés par Donald Trump et en même temps la Grande-Bretagne par Boris Johnson, le futur possible Premier ministre. Portrait très clair et net et bien écrit de notre correspondant Antoine Gignot, correspondant à Londres. Boulette Bobard et maîtresse, Boris Johnson et sa carrière en roue libre, c'est sur franceinter.fr. Dans les Ardennes, un commandant de police, le responsable départemental de la sécurité intérieure, vient d'être mis en examen pour viol et détention d'images pédopornographiques, c'est ce qu'annonce aujourd'hui le procureur de la République de Reims. Pour les amateurs de voile, c'est un des rendez-vous importants de l'année, la solitaire du Figaro. On arrive à la fin de course, les premiers de la quatrième et dernière étape sont au port de Dieppe, Jérôme Val, et c'est Johan Richomme qui remporte cette solitaire du Figaro.
C'est un peu la belle histoire de cette solitaire du Figaro. Il y a 3 mois, Johan Richomme ne devait même pas être au départ, et c'est le désistement d'un concurrent qui lui a permis de monter sur un bateau. Le natif de Fréjus, dans le Var, a très vite pris la main sur cette course en remportant la première étape en Irlande avec suffisamment avance pour s'éviter des frayeurs par la suite. Déjà victorieux en 2016, il entre dans le cercle très fermé des doubles vainqueurs et ça vient conclure une saison exceptionnelle pour lui. Richomme avait remporté la Route du Rhum en novembre dans la catégorie des classes 40. Et pourtant, rien ne prédestinait cet homme à la carrure de rugbyman au grand large. Formation en informatique, puis en architecture navale en Angleterre, c'est lors d'une traversée de l'Atlantique avec son père qu'il a le déclic. Il a 17 ans, 10 ans plus tard, personne ne le connaît, mais il perce dans le milieu, on le surnomme déjà le phénomène. Il confesse ne pas avoir de vrai plaisir à naviguer en solitaire. Ce qui l'intéresse en mer, c'est la météo et les réglages de voile. Son prochain objectif maintenant, le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire l'année prochaine. Dieppe, Jérôme Val, France Inter.
Où sont les 100 meilleurs restaurants du monde? La carte est sur franceinter.fr. Palmarès établi à partir du classement que vient de publier la revue britannique Restaurant. En tête, un établissement français, Mirazur, à Menton, qui a déjà 3 étoiles au Michelin. Ce devait être la vente aux enchères de l'année. Demain, à la Halle au Grain de Toulouse, eh bien, elle n'aura pas lieu. Le tableau du Caravage, ou attribué au Caravage, Judith et Holoferne, retrouvé dans un grenier il y a 5 ans dans la région de Toulouse, a été vendu dès hier après-midi et en vente privée. C'est un collectionneur étranger qui s'est porté acquéreur. Que sait-on de cette mystérieuse vente, Vanessa Marguet?
Alors il y a beaucoup de secrets autour de cette vente. On sait que la transaction s'est faite hier. Un acheteur étranger, un riche collectionneur, a fait une proposition d'achat avant la vente aux enchères et il était impossible, je cite, de ne pas transmettre cette offre au propriétaire du tableau, d'après le commissaire-priseur Marc Labarbe. Impossible car elle est intéressante financièrement. On ne connaît pas les montants. L'accord trouvé hier est soumis à une clause de confidentialité. Mais ce tableau, mis à prix 30 millions, devait partir, selon les experts, entre 100 et 150 millions d'euros et on peut penser qu'une offre acceptée avant les enchères était forcément très élevée. L'autre point qui a décidé les acheteurs, c'est que le collectionneur étranger en question est proche d'un grand musée à l'étranger. Il souhaite restaurer le tableau et l'exposer ensuite. Le public pourra donc l'admirer d'ici un an, reste à savoir où. D'après l'expert français du Caravage, Eric Turquin, l'acquéreur devrait se faire connaître rapidement, mais il tient à maîtriser lui-même sa communication.
On en vient au conseil cinéma de ce mercredi. Aujourd'hui, deux conseils autour d'un thème. Les objets prennent le pouvoir. Bande annonce.
Vers l'infini et au-delà.
Regarde, pourquoi rester dans une chambre d'enfant quand on peut profiter de tout ça?
Woody, on va pas retrouver Bonnie?
Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Eh oui, les objets prennent le pouvoir cette semaine. C'est d'abord l'épisode 4 de Toy Story, les jouets Pixar, nouvelles aventures, nouveaux jouets, nouveaux enfants. Dites-moi que c'est réussi.
Oh absolument, bon. C'est un quatrième volet qui va venir sécher toutes les larmes des fans qui avaient eu tant de mal à se remettre du départ du petit garçon de la famille pour la fac, Andy, qui abandonnait ses jouets, leur triste sort, dans le troisième volet de la saga qui était sorti en 2010. Un épisode qu'on avait trouvé un petit peu cruel, qui ne pouvait pas venir clore dignement une saga de 20 ans à succès. Revoilà donc nos jouets, Woody, le cow-boy en mousse, le robot astronaute Buzz l'éclair, aux côtés d'une nouvelle petite fille, Bonnie, qui rompt à partir cette fois-ci avec le sosie de l'affreuse poupée de Chucky. Toujours beaucoup d'humour, de belles valeurs d'entraide, de solidarité et de nouveaux personnages. L'arrivée notamment d'une fourchette en plastique, fabriquée à partir de déchets, qui va pousser toute la petite bande des jouets à se poser tout un tas de questions existentielles.
C'est à voir en famille, évidemment, pour les plus grands, beaucoup plus barrés. Les objets prennent le pouvoir suite l'histoire d'un frigo qui parle.
Oui, alors il a même un petit nom, il s'appelle Yves, tout droit sorti de l'imagination du réalisateur Benoît Forgeard, qui s'est intéressé ici au potentiel comique des objets high-tech qui envahissent nos vies. Ici, un frigo super intelligent qui fait vos courses à votre place, précède toutes vos envies et nous pousse évidemment à la performance permanente.
C'est le comédien William Lebgill dans le rôle d'un jeune rappeur qui est chargé de le tester pour le meilleur et évidemment pour le pire.
Alors normalement, c'est sa grand-mère qui aurait dû jouer les cobayes pour la start-up Digital Cool qui commercialise ces nouvelles machines entre l'objet et le robot, mais elle a disparu trop vite et c'est Jérém, du coup son petit-fils qui veut être rappeur, qui hérite du frigo. Pas grand-chose à faire, répondre à une enquête de temps en temps, des courses gratuites, la bonne aubaine.
Ouais, ouais.
Mais bien sûr, rien ne va se passer comme prévu autour de cette cohabitation improbable. Il y a quelques longueurs, on tourne parfois un petit peu en rond, mais l'analyse est assez fine, avec de bons gags. C'est un vrai plaidoyer contre tous ces algorithmes qui ont envahi nos vies et décident de tout pour nous tout le temps.
Et le film s'appelle Yves de Benoît Forgeard. Il est donc au cinéma cette semaine. Merci Corinne Pellissier. Allez, avant la météo, cette question. Quelle forêt demain pour résister au changement climatique? Les chercheurs comprennent de mieux en mieux les mécanismes d'adaptation des arbres et forêts. Un facteur important, c'est la diversité des essences d'arbres. Une étude paraît cette semaine dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, Sophie Becherel.
Les arbres, par leur capacité à stocker du carbone, sont indispensables à la régulation du climat. Mais parce que 70% d'entre eux sont soumis au risque de sécheresse, il importe de comprendre ce qui les rend plus ou moins résistants au manque d'eau. Quand l'eau qui circule dans les veines de l'arbre est soudainement arrêtée par des bulles d'air, on appelle cela une embolie gazeuse. Dans cette nouvelle étude, des chercheurs américains montrent que c'est la capacité collective d'une forêt à supporter les embolies gazeuses qui la rend résiliente face à la sécheresse. Sylvain Delzon est chercheur à l'INRA.
Lorsqu'il y a des espèces qui sont très tolérantes à la sécheresse, qui sont très résistantes à l'embolie, et d'autres qui sont plus vulnérables à l'embolie, elles n'utilisent pas l'eau de la même façon. Donc quand il y a des conditions humides, une forêt qui sera plus diverse en termes de traits hydrauliques va consommer moins d'eau, et lorsque la sécheresse est installée, alors elle pourra continuer à transpirer de l'eau plus longtemps et il n'y aura pas une intensification de la sécheresse liée à la transpiration de la forêt.
À quoi peut bien servir cette compréhension fine du comportement des forêts? La réponse de Sylvain Delzon.
C'est intéressant pour d'une part pouvoir prédire les flux d'eau et les flux de carbone à l'échelle de la planète, mais également de pouvoir prédire les mortalités des espèces et donc le fonctionnement des écosystèmes, notamment sous l'impact du changement climatique.
Dans cette perspective, les monocultures type forêt de pin ou oliveraie sont donc moins armées pour affronter les sécheresses à venir.
Comme promis, la météo.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Sébastien Léas.
Hormis quelques nuages qui transitent sur la Bretagne et la basse Normandie, pouvant lâcher deux petites averses et des grisailles qui tardent à évacuer le Pas-de-Calais, l'après-midi se passe sous un ciel quasiment tout bleu et un soleil radieux. Le soleil est même accablant sur la majeure partie du pays avec des températures qui s'envolent à nouveau. La chaleur s'accentue avec toujours cette vigilance orange pour canicule sur de nombreux départements. Cet après-midi, la barre des 40 degrés peut être dépassée, notamment sur le centre du pays, et des records sont attendus. Il fait 35 à 39 degrés sur toute la moitié sud, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté, en Alsace et en Lorraine. 33 à 38 degrés des Pays de la Loire à l'Île-de-France et à la Champagne-Ardenne. Les températures sont plus modérées entre la Bretagne et les Hauts-de-France, avec 30 à 34 degrés et même moins de 30 degrés sur le Finistère, la Manche et l'ouest du Nord-Pas-de-Calais.
Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.